Je vous invite à garder la parole de Dieu ouverte dans l'Évangile selon Jean au chapitre 19 où nous poursuivons notre étude. Et pour vous qui êtes peut-être là pour la première fois en visite, j'ai l'habitude de montrer le stabilo pour les enfants quand il y a quelque chose à remplir dans le questionnaire, donc ne vous laissez pas perturber par cela. J'espère y penser parce qu'il m'arrive de ne pas penser à le montrer. Donc, je fais une promesse avec prudence que je montrerai le stabilo. À mort, crucifie-le. C'est ce que les Juifs ont crié quand Pilate leur a présenté Jésus en disant « Voici votre roi ». Manipulés par leurs dirigeants, les Juifs ne voulaient qu'une seule chose – le mettre à mort comme un criminel. Or, les criminels, c'était eux, en particulier les chefs des Juifs. Nous l'avons vu la dernière fois en assistant à un procès plein de paradoxes, avec des meurtriers qui se préoccupent de leur pureté, avec une accusation sans vrai motif d'accusation, et un innocent qui finit par être condamné, alors qu'un meurtrier est relâché. Un procès plein de paradoxes. Crucifierai-je votre roi ? Dit Pilate, tentant une dernière fois d'épargner celui en qui il n'avait trouvé aucune faute digne de condamnation. Il le constate à plusieurs reprises. Je ne trouve aucune faute digne de condamnation en cet homme. Mais il n'y a rien à faire. Les principaux sacrificateurs préfèrent déclarer une prétendue allégeance à César plutôt que de voir Jésus libéré. Alors, il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent, nous dit le verset 16, où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Est-ce que vous vous souvenez cependant, du paradoxe infiniment glorieux, du plus grand des paradoxes que nous avons considéré en assistant à ce procès la dernière fois. Nous avons constaté que tout ce procès, avec toute l'injustice qu'il comporte, avec toute l'abominable injustice des hommes qui le caractérise, s'inscrit en réalité, dans le plan éternel et parfait de Dieu pour l'accomplissement du salut. Comment ça? Comment est-ce que la condamnation à mort de Jésus peut-elle contribuer au salut des hommes, à leur réconciliation avec leur Créateur, à leur entrée dans le royaume de Dieu et dans la vie éternelle? Comment? C'est ce que la suite du récit de Jean nous aide à comprendre. Pas de manière isolée, mais lorsque nous regardons ce texte à la lumière du reste de l'Écriture. Ce récit nous rapporte en effet plus que la mort injuste d'un homme. Il nous rapporte plus que la mort injuste d'un homme. Ce récit nous rapporte la mort du juste qui meurt pour des injustes. D'où le titre que j'ai choisi pour cette prédication, « Jésus crucifié, le juste qui meurt pour des injustes ». Nous arrivons ici au cœur même, au point culminant de l'œuvre de rédemption, au message et à la signification de la croix qui constitue le fondement de toute notre espérance. Les implications sont majeures. Si vous avez compris le problème du péché, qui met une séparation entre vous et votre Dieu, votre Créateur. Si vous avez compris l'état dans lequel vous vous trouvez par nature en tant que pécheur face au juste juge de l'univers et que vous désespérez de vous-même et de la perspective d'une condamnation éternelle, votre seule espérance repose sur la vérité de la mort de Jésus à la croix. Et nous y reviendrons à la fin de ce message. Mais parcourons d'abord le texte pour en saisir les éléments essentiels. Nous allons faire cela à l'aide de deux points. Un crucifié hors norme et une crucifixion hors norme. Le récit de Jean nous permet en effet de voir en Jésus un crucifié complètement hors norme. Rien n'est normal ici. Ce sera notre premier point. Un crucifié hors norme. Si vous aviez besoin d'experts de la crucifixion, c'est aux Romains qu'il fallait se tourner. Il existait bien sûr d'autres moyens pour exécuter des condamnés à mort, comme par exemple la décapitation. Pourquoi et dans quel cas les Romains avaient-ils recours à la crucifixion alors? Pourquoi ce moyen-là pour exécuter certains? C'est que la crucifixion était un moyen d'exécution très intentionnel, qui était utilisé pour des auteurs de crimes particulièrement odieux et pour des ennemis de l'État. Le but était de faire de leur mort une procédure aussi publique, atroce et humiliante que possible, afin de dissuader toute personne qui songerait à adopter des comportements similaires. Tout servait à faire ressentir aux condamnés le pouvoir de l'État et à en impressionner la foule en faisant de leur mort un spectacle. Ce n'est pas comme ces condamnations à mort, comme elles sont, ces exécutions comme elles sont pratiquées dans certaines parties des États-Unis encore aujourd'hui, où tout se fait quelque part en cachet. Rien de public et de manière aussi humaine, si vous voulez, que possible. Ici, tout sert à en faire un spectacle à la vue de tout le monde. Pour commencer, les condamnés devaient porter leur propre croix au lieu de crucifixion. Avançant péniblement dans les rues de la ville, l'instrument qui servira à leur propre torture pesait lourdement sur leur dos. La crucifixion elle-même avait pour but une mort aussi visible, longue, atroce et humiliante que possible. C'est un processus qui pouvait prendre plusieurs jours. Et après leur mort, les crucifiés n'étaient habituellement pas mis dans des tombeaux. Les Romains laissaient leurs cadavres suspendus plusieurs jours sur la croix avant qu'ils soient jetés dans une fosse d'ordures. C'était donc un moyen d'exécution réservé aux auteurs de crimes particulièrement odieux et aux ennemis de l'État. Or, rien de cela n'était le cas pour Jésus. Oui, il a été condamné sur la base d'une accusation d'ordre politique, comme s'il avait entraîné le peuple à la révolte. Luc chapitre 23 nous rapporte cela. Et pourtant, Pilate lui-même déclare à plusieurs reprises « Je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. » Sa femme, la femme de Pilate, suite à un rêve dans la nuit, lui dit aussi « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste. » Jésus est donc un crucifié hors norme parce qu'il est livré à cette mort tout en étant déclaré innocent. Juste. Mais Jésus est un crucifié hors norme pour d'autres raisons encore. C'est au moment de sa crucifixion qu'il est proclamé roi. Selon la coutume, le motif de condamnation était inscrit sur un panneau affiché à la croix. Pilate fit aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était inscrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Verset 19. Et le verset 20 précise que l'inscription était en hébreu, en latin et en grec. Cette inscription embêtait profondément les dirigeants juifs. Imaginez que vous ne supportiez pas la musique d'un certain chanteur. Manque de bol, où que vous alliez, quel que soit le magasin, c'est exactement cette musique-là qu'ils mettent tout le temps. Vous n'avez peut-être rien contre le fait qu'il y ait de la musique, vous pouvez faire avec. Il faut juste que ce ne soit pas celle-là. C'est un peu la même chose ici. L'inscription que Jésus est le roi des Juifs rappelait au souverain sacrificateur exactement ce qu'il ne supportait pas. Parce qu'en se faisant acclamer comme roi à son entrée dans Jérusalem, Jésus, quelque part, a affirmé son autorité sur le peuple. Ils ne supportaient pas cela parce que c'est eux qui pensaient détenir l'autorité et c'est eux qui étaient remis en question quand Jésus s'est fait acclamer comme roi. Ils font donc tout pour éviter que cette déclaration reste affichée. Pilate, cependant, ne cède pas d'un pouce. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Cette inscription était pour lui comme un moyen de vengeance, en fait. Il avait déjà provoqué les Juifs au verset 14 en leur présentant Jésus avec ces mots « Voici votre roi ». Ici, il se moque de leur prétendue allégeance à César. Cette allégeance qu'ils ont exprimée au verset 15. « Nous n'avons de roi que César. Nous sommes fidèles à César. Jésus n'est pas notre roi. » Mais Pilate connaissait très bien leur sentiment d'aversion à l'égard de l'empereur, à l'égard des Romains en général, à son égard en fait, à lui qui était un représentant de l'Empire. Il savait très bien que les Juifs avaient recours à lui uniquement pour arriver à leur but. Pas parce qu'ils avaient un vrai respect de lui, mais parce qu'il fallait faire avec lui et en l'occurrence, il pouvait être utile pour arriver à leur but, c'est-à-dire faire mourir Jésus. Il leur fait ressentir alors leur impuissance face à son propre pouvoir en gardant l'inscription « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Pilate est animé d'un sentiment de vengeance. Son but est d'humilier ceux qui l'ont humilié, lui, en le mettant sous pression, pour qu'il livre à la crucifixion un homme en qui il n'avait pas trouvé de faute. Et dans tout cela, il sert inconsciemment à accomplir le décret de Dieu. Il contribue à ce que nous comprenions que Jésus est un crucifié hors norme, déclaré roi dans sa mort. Et pas seulement roi des Juifs, en fait. L'inscription en trois langues, à l'insu de Pilate, figure comme un symbole du royaume de Jésus qui englobera des hommes et des femmes de toute langue, de toute nation. Jésus est véritablement le roi de tout vrai juif, de ceux qui le sont par la circoncision du cœur, comme Paul le dit dans son épître aux Romains. Il est véritablement roi de ceux qui le reçoivent avec foi et qui se soumettent à son autorité, des hommes et des femmes, de toute langue, de toute nation. Jésus est un crucifié hors norme. Il est condamné alors qu'il est innocent, parfaitement juste. Il est proclamé roi lors de sa crucifixion. L'épître aux Hébreux nous dit au chapitre 2, verset 9, « À cause de la mort qu'il a soufferte, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. » Comme la gloire et, la roi, et l'honneur d'un roi. Et ce n'est pas tout. Comment est-ce que nous le voyons encore comme un crucifié hors norme? Il y a en tout cas un autre élément dans notre texte. Il est un crucifié hors norme dans son souci pour les siens alors que lui-même souffre atrocement. Verset 25 et suivant. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et debout auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit à son disciple, « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Marie, la mère de Jésus, était veuve au moment de la crucifixion de Jésus. À l'époque, il n'y avait pas d'assurance sociale, pas de rente de veuve. Les veuves étaient souvent parmi les plus démunis de la société. C'est pourquoi Jésus se préoccupe de ce que sa mère deviendra. Et il la remet aux soins du disciple qu'il aimait. La plupart des commentateurs pensent qu'il s'agit de Jean, l'auteur de cet évangile. C'est sa manière de parler de lui-même et de son rôle sans se mettre en avant. Pourquoi est-ce que Jésus ne remet pas sa mère à ses frères selon la chair? Ce qui serait la chose la plus... la chose à attendre quelque part, la chose la plus normale, c'est qu'un autre membre de famille s'occupe de sa mère. D'une part, les frères de Jésus étaient probablement toujours en Galilée, à Nazareth ou à Capernaüm. Mais surtout, ses frères ne croyaient pas en lui. Nous l'avons vu au chapitre 7, verset 5. Ils ne partageaient pas la même foi que leur mère. Pour être véritablement soutenus dans cette heure la plus sombre, et une fois que Jésus ne sera plus là pour s'occuper d'elle, Jésus préfère remettre sa mère aux soins d'un de ses disciples. Enfin, la chose qui doit vraiment nous frapper ici, c'est le cœur plein de compassion de Jésus pour les autres, pour les siens. Il est vraiment un crucifié hors norme. Qu'est-ce qui se passe quand un enfant se fait piquer par une guêpe ou qu'il s'est fait une éraflure qui saigne un peu? Il est complètement absorbé par sa blessure, n'est-ce pas? C'est comme si rien n'existait au-delà de ce doigt ou de ce genou qui saigne. Et pour les adultes, ce n'est souvent pas très différent, à moins qu'on joue au dur. Mais c'est vite le pauvre moi qui occupe toute la place, même pour des choses qui, pour finir, ne sont pas si graves. Une entorse, par exemple. Jésus ne souffrait pas d'une piqûre de guêpe, ni d'une éraflure, ni d'une entorse. Il était cloué sur une croix. Des clous de fer traversaient ses pieds et ses mains. Chaque respiration lui demandait un effort énorme. Il devait pousser sur ses jambes et tirer sur ses bras pour pouvoir utiliser sa musculature de respiration. Et cela ne faisait qu'augmenter les douleurs provoquées par les clous. Sa souffrance était extrême. Sa situation absolument horrible. Et son souci pour les siens, sa compassion pour sa mère, d'autant plus étonnant. C'est son cœur qui nous est révélé ici. Le cœur d'un crucifié hors norme, qui dans la plus grande souffrance se préoccupe encore du bien-être et de la sécurité des autres. Jésus a aimé les siens réellement jusqu'au bout. Comme Jean nous le dit en fait, au début de toute cette section qui nous amène à sa crucifixion, Jésus les aima jusqu'au bout. Chapitre 13, verset 1. Condamné, alors qu'il était innocent, proclamé roi au moment de sa crucifixion, compatissant et préoccupé du bien des autres, au milieu de souffrances atroces, ce récit nous révèle un crucifié hors norme, le juste roi, plein de compassion, digne de confiance et d'adoration. Et deuxièmement, sa crucifixion est un événement hors norme. Ce sera le deuxième point, une crucifixion hors norme. Est-ce que vous avez détecté le refrain dans notre texte? Il y a un refrain dans notre texte, quelque chose qui revient à plusieurs reprises. Verset 24, c'est afin que s'accomplisse l'Écriture. Verset 28, afin que l'Écriture soit accomplie. Verset 30, tout est accompli. Et plus loin encore, pour que l'Écriture soit accomplie. Si vous pensez que la mort de Jésus à la croix était un événement tragique, un malheureux échec d'une mission qui s'était bien annoncée, vous ne pourriez vous tromper davantage. La mort de Jésus est l'aboutissement du plan de Dieu, jusque dans le moindre détail. L'aboutissement du plan de Dieu, jusque dans le moindre détail. Elle est la réalisation de ce qu'il avait décidé avant même la fondation du monde et qu'il a mis en œuvre selon sa volonté souveraine et parfaite. Quels sont les aspects particuliers de la crucifixion de Jésus qui constituent des accomplissements de prophéties faites au peuple de l'Ancienne Alliance? Le moyen d'exécution lui-même. Olivier y a fait référence avec la lecture du psaume 22. Ésaïe 53 aussi anticipe ce moyen d'exécution-là. Ils ont percé mes mains et mes pieds, psaume 22. Il a été transpercé à cause de nos crimes, Ésaïe 53. Ésaïe prédit aussi le rejet et l'abandon du Messie par les hommes et le fait qu'il allait être traité comme un criminel. Enfin, plus explicitement dans notre texte, il y a le partage de ses vêtements, prédit également par le psaume 22. Il y a la parole de Jésus quand il dit « J'ai soif », prédite par le psaume 69. Et le fait que les soldats renoncent à casser ses jambes, prédit d'une part par Exode 12, 46, avec l'agneau de Pâques auquel les Juifs ne devaient pas briser les os, ou encore le psaume 34, verset 21, où nous trouvons la même notion en faisant allusion au Messie qui devait venir. C'est quelque chose que les Romains faisaient parfois pour provoquer une mort plus rapide des crucifiés. En cassant leurs jambes, ils les empêchaient de pouvoir pousser sur les jambes pour mieux respirer. Ils mouraient alors plus rapidement d'asphyxie, c'est-à-dire d'un manque d'oxygène. Mais ce n'est pas le cas avec Jésus. Quand les Juifs demandent à Pilate de précipiter les choses, parce qu'ils ne veulent pas que cette crucifixion se prolonge trop dans les festivités de la Pâque, avec le sabbat, les soldats constatent que Jésus est déjà mort. Il renonce alors à lui briser les jambes, accomplissant ainsi ce que l'Écriture avait prédit. Ce qu'ils font par contre, c'est lui percer le côté avec une lance. C'était pour vérifier qu'il était vraiment mort. Et cela encore n'est pas juste un hasard, mais l'accomplissement de ce que l'Écriture avait prédit. J'en cite en effet le prophète Zacharie qui dit « Ils regarderont celui qu'ils ont percé ». Sa mort est hors norme parce qu'elle est un événement annoncé d'avance dans tous ses détails. Et c'est encore le cas pour ce qui concerne le rôle de Jésus et l'attitude qu'il démontre dans sa propre crucifixion. Est-ce que vous réalisez qu'en tant que Dieu, Fils de Dieu, Dieu fait homme, il aurait pu mettre fin instantanément à toute l'injustice commise à son égard? Il lui suffisait de prononcer une parole pour que tout s'arrête. Il avait le pouvoir d'arrêter tout et même d'anéantir ses bourreaux par une simple parole. Et pourtant, il se laisse faire. Là encore, il accomplit ce qui avait été annoncé à son sujet à l'avance par l'Écriture. Ésaïe 53, verset 7. Il a été maltraité, il s'est humilié. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il aurait pu, mais il ne l'a pas fait. Ce qu'il nous faut bien comprendre ici, c'est que Jésus ne s'est pas trouvé dans un état d'impuissance. Le contrôle ne lui a pas échappé, pas un seul instant. Au contraire, il s'est laissé faire. C'est lui qui est resté parfaitement au contrôle jusqu'au bout. C'est lui qui a consciemment accompli tout ce que l'Écriture avait prévu. Nous le voyons de manière, particulière qu'il était au contrôle au moment même de sa mort. Déjà avant, en fait, à y penser. Après cela, verset 28, Jésus qui savait que déjà tout était achevé, il était très conscient de ce qui devait être achevé, dit « Afin que l'Écriture soit accomplie, j'ai soif ». C'est pas juste qu'il avait soif, mais il dit « J'ai soif pour accomplir l'Écriture ». Et au moment même de sa mort, au verset 30, quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Il ne meurt pas simplement. Il rend l'esprit. Il est actif dans sa mort. D'autres jouaient inconsciemment leur rôle dans l'accomplissement du plan de Dieu. Ça, c'est le cas des Juifs, de Pilate, qui font en fait ce que Dieu avait prévu, mais ils n'en sont pas conscients. Lui, Jésus, est entièrement conscient jusqu'au bout de sa mission. Tout ce qu'il fait, il le fait intentionnellement. En fait, Jésus fait ici ce qu'il avait dit plus tôt, au chapitre 10, « Je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Jésus meurt donc de son propre gré. Il a choisi d'obéir à la volonté du Père jusqu'au bout, jusqu'à la mort à la croix. Un crucifié hors norme et une crucifixion hors norme. Passons à quelques considérations générales et des applications. Pour quelles raisons Jean nous rapporte-t-il tous ces détails? Il y a pas mal de détails, n'est-ce pas? Il y a une raison pour cela. S'il s'agissait d'un simple événement historique, parmi d'autres, comme les faits divers dans le journal, Jean aurait pu se limiter à un petit article. Il aurait pu se limiter à écrire que Jésus de Nazareth a été crucifié. Ça nous aurait suffi pour savoir qu'il est mort d'une mort atroce, comme un criminel. Pourquoi est-ce qu'il met tous ces détails? C'est que la mort de Jésus est plus qu'un événement historique. C'est la crucifixion hors norme d'un crucifié hors norme. C'est l'événement clé même de l'histoire de l'humanité. C'est l'événement qui fait, pour nous, la différence entre la perdition et la vie éternelle. Et il veut qu'on comprenne ça. Jean en parle avec un but particulier. Regardez le verset 35. Celui qui l'a vu, Jean était là comme témoin oculaire, celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et lui, il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez, vous aussi. Que vous croyez quoi? Jean le précise au chapitre 20, au sujet de l'ensemble de son évangile. Ceci est écrit, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie éternelle. Le but de Jean est de nous donner raison de croire. Son but est de nous donner tout ce qu'il nous faut pour que nous comprenions, pour que nous reconnaissions tant la crucifixion de Jésus, l'accomplissement de l'œuvre du salut, et que nous trouvions en lui notre espérance. Maintenant, comment est-ce que la crucifixion de Jésus peut nous donner l'assurance du salut et de la vie éternelle? C'est là que nous avons besoin de la lumière du reste de l'Écriture. C'est des choses que le texte lui-même ne nous permet pas, en lui seul, de comprendre. Le reste de l'Écriture nous explique ce que Jésus a réellement accompli par sa mort, en donnant sa vie. Son œuvre accomplie à la croix était appelée une rédemption par substitution pénale. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot rédemption veut dire rachat, rachat par le paiement d'un prix. C'est une expression qui renvoie à la pratique de vente d'esclaves dans le monde antique, où un esclave qui n'avait aucune liberté, aucun droit, qui était simplement la possession de son maître, pouvait changer de propriétaire par le paiement d'un prix. C'est ce que Jésus a fait pour nous libérer de l'esclavage du péché, qui nous tenait fermement dans sa main. Nous étions entièrement sous son pouvoir, nous étions sans pouvoir, écrasés par la culpabilité du péché, sans pouvoir y changer quoi que ce soit. Et Jésus a payé le prix de rachat pour nous en libérer et pour faire de nous sa propriété, une œuvre de rédemption. L'expression « substitution pénale » signifie qu'en mourant à la croix, Jésus a pris notre place. Il a subi à notre place la punition. C'est comme un substitut au foot. Quand il y a une substitution, il y a un joueur qui sort et l'autre qui prend sa place, n'est-ce pas? Et qui continue de jouer à sa place. Nous étions les condamnés sous la colère de Dieu. Jésus s'est substitué à nous pour subir à notre place la condamnation, la colère de Dieu. Et Ésaïe nous parle de cela de manière particulièrement claire au chapitre 53. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ce que nous pouvons avoir de la peine à saisir, c'est que la plus grande souffrance de Jésus n'était pas causée par la torture physique, aussi atroce qu'elle fût. Elle était causée par l'abandon du Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Elle était causée par la juste colère de Dieu, provoquée par nos péchés, qui s'est déversée sur lui. À la croix. À la croix, Jésus a donc subi à notre place la condamnation, une fois pour toutes, entièrement, définitivement, pour nos péchés, passés, présents, futurs. La mort de Jésus à la croix est donc plus que la mort d'un homme ordinaire. C'est la mort du Fils de Dieu, du Rédempteur qui donne sa vie, qui se sacrifie, qui souffre à la place des pécheurs pour qu'ils soient libérés de l'esclavage du péché. Jésus est le juste qui est mort pour des injustes, afin de les amener à Dieu, dit Pierre dans sa première épître au chapitre 3. Il est le juste, le seul vrai juste, qui est mort pour des injustes. Il s'est substitué afin de nous amener à Dieu, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Quiconque croit en lui ne périt pas, mais il a la vie éternelle. Il peut être assuré du pardon de Dieu et de sa réconciliation avec son Créateur. Est-ce que vous saisissez l'importance de tout cela? La croix, ou plus précisément, l'œuvre accomplie par Jésus à la croix, est absolument indispensable. Sans la croix, il n'y a pas de salut. Pas de pardon, pas d'espérance, pas de vie éternelle. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rater une sortie d'autoroute? C'est très embêtant, surtout quand la suivante se fait attendre. Parfois, il faut attendre longtemps pour arriver à la sortie suivante pour pouvoir changer de direction, n'est-ce pas? Et arriver à la bonne destination. Sans la mort de Jésus à la croix, c'est comme si vous étiez sur l'autoroute qui mène à la perdition. Et c'est une autoroute sans sortie. Vous pouvez attendre très longtemps. Elle ne vient pas. Impossible de quitter cette autoroute-là. Sans la mort de Jésus à la croix, l'homme pécheur resterait inévitablement sous la juste colère de Dieu et dans l'attente d'une condamnation éternelle. Et vous ne pouvez rien y changer. La mort de Jésus à la croix est le seul moyen de salut pour quitter la voie de la perdition et arriver sur le chemin de la vie éternelle. Il n'y a rien que nous pourrions faire pour nous, qui pourrait nous donner cette assurance-là. Il n'y a que ce que Jésus a fait qui peut nous donner cette assurance-là. Si votre espérance de salut ne se trouve pas en lui et dans son œuvre accomplie à la croix, vous êtes sans espérance. Que faites-vous lorsque vous prenez conscience du péché et de ce qu'il mérite? Que faites-vous lorsque Dieu, dans sa grâce, vous fait trembler à la réalisation que le péché vous vaut sa colère, que vous êtes sous sa colère, et que le péché vous vaut une conséquence éternelle, une condamnation éternelle? Ah, je vais redoubler les efforts pour ne pas céder à la tentation. Je vais mieux faire maintenant. Je vais essayer de réparer ainsi mes torts. Je vais essayer de compenser le mal que j'ai fait. Ou bien il faut que je sois plus régulier dans ma lecture de la Bible, dans la prière, dans ma participation à la vie d'église. Avec un peu de chance, ce sera peut-être suffisant. Ce sont de bonnes choses, mais elles ne sauvent pas. Tant que vous n'avez pas pris la sortie de l'autoroute, c'est juste comme si vous aviez adapté un peu votre vitesse ou peut-être vous avez passé de la voie de dépassement sur la voie de droite, mais vous êtes toujours en train d'aller vers la perdition. La destinée n'a pas changé. Toutes ces choses bonnes ne peuvent enlever la culpabilité déjà accumulée. Seule la croix le peut, ou plus précisément, seule l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. Vous avez besoin de revenir à la croix et de vous reposer sur Jésus qui y a été condamné à votre place. Et pas seulement une fois. Oui, il y a une première fois où nous prenons la sortie de l'autoroute qui mène à la perdition. Il y a une première fois où nous plaçons notre confiance en Christ et dans ce qu'il a accompli par sa mort à la croix. Mais nous avons besoin de revenir à la croix continuellement. Elle est plus qu'une sortie. Elle est aussi là comme les panneaux indicateurs qui viennent à répétition pour nous assurer que nous sommes sur le bon chemin, celui qui mène vers la vie éternelle. J'ai discuté il y a quelque temps avec quelqu'un de ma parenté qui se heurtait profondément à l'idée qu'un Dieu d'amour puisse juger des pécheurs et plus encore qu'il était nécessaire qu'il fasse souffrir son propre fils pour pouvoir nous pardonner. Son idée c'était que si Dieu est vraiment amour, ben, il doit nous sauver comme ça. Il ne devrait pas y avoir besoin d'une souffrance tellement atroce. Je crains que ce proche n'a pas vraiment compris que Dieu n'est pas seulement amour, mais aussi parfaitement saint et juste, et qu'il est nécessaire que le péché soit puni par lui. Mais surtout, je crains que ce proche n'a pas compris qu'à la croix, il n'y a pas que la justice de Dieu qui est à l'œuvre. Nous y trouvons en même temps la preuve suprême de son amour pour des pécheurs. Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux, son propre Fils, éternel, parfaitement juste, pour qu'il se substitue à nous et nous délivre d'une condamnation éternelle. Pourquoi? Parce qu'il a choisi d'aimer. Parce qu'il est un Dieu d'amour. La croix, qui est une folie pour ceux qui périssent, nous dit Paul dans sa première épître aux Corinthiens, qui révolte ceux qui ont la pensée obscurcie. Et pour nous qui croyons, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Notre seule espérance, le refuge de nos âmes, le fondement même de notre salut. Que Dieu vous accorde aujourd'hui même de pouvoir vous réjouir de la parole de la croix et de pouvoir vous glorifier du juste, de Jésus, qui est mort pour des injustes, pour nous, afin de nous amener à Dieu. À lui la gloire. Amen.